Amen. On peut se mettre. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour son activité parmi nous. Et nous croyons qu'il continue encore à agir. Vous êtes bénis d'être là dans cette atmosphère. Vous avez sacrifié vos lits pour rencontrer le Seigneur. Amen. Alors nous croyons que notre récompense sera grande. Alléluia. Et que nos cœurs reviennent à l'Éternel comme l'Éternel nous le demande. Amen. C'est très important. Il est temps que nous soyons vraiment des sentinelles les uns des autres. Amen. Nous devons garder la sainteté de la maison de Dieu. Alors nous allons pour ce ouvrir nos livres dans le livre de Proverbes, chapitre 24. Nous allons lire deux versets, disons trois, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Proverbes 24. Proverbes 24. Alléluia. Proverbes 24, versets 10 à 12. Nous allons lire à l'unisson. 1, 2, 3. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Amen. Seigneur, merci de voir ta parole et d'amener la foi qui est associée à cette parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse, la Bible dit. Amen. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas et ne le rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Amen. Ce sont les proverbes qui ont été compilés par les serviteurs de Dieu. On attribue le livre de proverbes à Salomon, mais il y a d'autres proverbes qui n'ont pas été écrits par Salomon. Et nous croyons que ce sont des écrits inspirés. Mais il y a quelque chose de puissant ici. Moi, je crois une chose. J'ai envie d'intituler ce message « Dieu voit ». Dieu voit tout. Dieu voit dans le secret. Amen. C'est important. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dieu voit tout. Amen. Et c'est quelque chose de tellement important qu'il faut retenir. Quand Dieu voit tout, ça veut dire qu'il a la capacité de récompenser ce qu'on fait dans le secret. Il a aussi la capacité de juger ce qu'on fait dans le secret. Dépendamment de ce qu'on fait dans le secret. Amen. Amen. Dieu voit tout. Il a la possibilité aussi de rendre justice quand tu subis une injustice. Il est le juste juge. Il voit tout. Amen. Mais ici, il est en train de donner une pensée. Il dit, si tu es faible au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Vous voyez le mot faiblesse et le mot force, le mot détresse. Amen. Détresse revient à deux reprises, mais nous voyons, il y a plus c'est la faiblesse et la force qui sont mis de part et d'autre de la détresse. La détresse, c'est l'effroi, c'est ce que tu vis, la difficulté, l'adversité que tu peux peut-être vivre. Mais Dieu est en train de dire une chose. Il est en train d'établir une chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la loi des parallèles. Où il y a deux choses qui ne se touchent pas, mais qui sont parallèles l'un à l'autre. Amen. Et la force est parallèle à la faiblesse. Mais dans les parallèles de Dieu, il veut que la faiblesse vienne avant la force. C'est pour ça que Paul peut dire, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Mais il est en train de questionner quelqu'un. Si parce que l'adversité t'est arrivée, c'est une raison pour toi d'être faible et de continuer à rester faible, c'est que ta faiblesse n'est que détresse. Ta force plutôt n'est que détresse. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Dieu marche dans les parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu vois quelque chose qu'on appelle la faiblesse, ça veut dire que la force n'est pas loin. Quand tu vois la faiblesse, tu dois voir la force. Quand tu vois l'adversité, tu dois voir la prospérité. Parce que pourquoi Paul pouvait dire que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. La détresse ne peut pas juste être un moment où tu vas être faible jusqu'à la fin. Amen. La détresse est une opportunité pour ta faiblesse d'être changée en force. Amen. Alors c'est important, bien aimé, que dans des moments comme ceci, tu passes des moments difficiles, tu passes des moments incertains, tu passes des moments troublés, où toute ta faiblesse est en train de se manifester parce que tu es un homme, parce que tu es limité. Mais laisse-moi te dire qu'en parallèle, Dieu est en train de voir ta force qui est cachée dans ta faiblesse. C'est pour ça que quand tu es faible, c'est à ce moment-là que tu dois confesser la force et non la faiblesse. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que quand la détresse nous envahit, « Oh, je ne suis pas capable. Oh, je n'y arriverai pas. Oh, je ne pourrai pas. J'arriverai pas. » Bien-aimé, quand tu le fais, tu es en train de sceller quelque chose. Et la faiblesse va venir élire son domicile. Et c'est pour ça que maintenant, toute la force qui était cachée dans ta faiblesse va n'être que détresse. Parce que toi, au milieu de la détresse, au lieu de proclamer la force, tu as déclaré la faiblesse. Amen. Quand il y a détresse et que tu affaiblis, proclame la force. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu vois un peuple qui est faible, dans les yeux de Dieu, Dieu voit un peuple qui est fort. Vous voyez pas, quand vous regardez l'histoire d'Israël, la plupart de leurs ennemis étaient plus grands qu'eux, plus nombreux qu'eux. Mais ils avaient toujours la vie. Amen. Parce que Dieu fonctionne dans les parallèles. Dieu qui voit tout, il est en train de voir ce que toi tu ne vois pas. Amen. Quand tu es faible, Dieu est en train de voir la force que toi tu ne vois pas dans ta faiblesse. Amen. C'est pour ça qu'en nous disant que le faible dise « Je suis fort ». Parce que Dieu est le Dieu de parallèle. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand tu es faible, il y a quelque chose que Dieu vient faire. Dieu aime agir dans les contraires. Pour montrer qu'il est Dieu. Là où tu ne pouvais pas, moi je peux. J'aimerais que tu puisses voir tous les moments où tu as été affaibli. C'est le moment que tu dois le plus déclarer que tu es fort. C'est le moment que tu dois voir le plus ta force. C'est le moment que tu dois maintenant chercher les outils qui vont te fortifier. Tu dis, cette faiblesse, cette détresse, c'est vrai qu'elle expose ma faiblesse, mais il y a une force cachée dans ma faiblesse. Amen. Sinon, ma force n'est que détresse. Donc, il y a un parallèle entre la faiblesse et la force. Il y a aussi un parallèle entre la peine et la joie. La douleur et la joie. Quand il y a quelque chose qui te fait mal, qui te rend dans la douleur, bien-aimé, vois la joie. Amen. J'aime ce que le psalmiste dit. Il dit que la douleur vient pour une nuit, mais la joie vient le matin. Oh, Rabba Shanta. La Bible déclare qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu a tendance d'amener toujours le moins bon avant le plus bon. Alléluia. Si tu as goûté à l'amertume, quand tu goûtes à l'amertume, pense à quelque chose qui goûte le plus bon. Parce que le goût qui va rester dans ta langue ne sera pas l'amertume. Amen. Mais ce qui est joyeux et agréable. Mais c'est à toi de le décider. Au milieu de la douleur, rejouis-toi l'Éternel. Réalise que la joie du Seigneur est ta force. Amen. Il y a un autre parallèle que le Dieu qui voit tout voit aussi, que toi tu ne vois pas. C'est la détresse, c'est l'adversité qui est parallèle à la prospérité. Amen. La Bible nous déclare que Dieu crée l'adversité et il donne la prospérité dans Isaïe. C'est le même Dieu qui fait tout. C'est-à-dire, bien aimé, quand tu vois l'adversité, la détresse, c'est en ce moment-là que tu dois déjà voir la prospérité. Je vais te dire, pour prospérer, il faut qu'il y ait un adversaire devant toi. Vous ne croyez pas? Lisez Psaume 23, la Bible déclare, il dresse devant moi une table en face de qui? Il faut que quelqu'un te voie manger ce que Dieu a préparé pour toi. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas un ami, ça doit être un adversaire. Tu sais, la meilleure prière que tu peux faire contre un ennemi, c'est qu'il vive. C'est un qui ne meurt pas, qu'il vive jusqu'à ce qu'il me voie manger. Ce que tu as prévu pour moi. Amen. Alors c'est pour ça, bien aimé, au milieu de l'adversité, tu dois te dire, il y a certainement une prospérité que Dieu a cédulée pour ma vie, que je n'ai pas vue. Mais c'est pour ça que je vous ai dit le terme, Dieu voit tout. Il voit dans le secret. Il voit ce qui est caché dans l'adversité. Mais il est temps maintenant pour nous de voir aussi ce que Dieu voit. Dans ma faiblesse, que je vois la force. Amen. Dans ma détresse, dans mon adversité, que je vois la prospérité. Amen. Il y a aussi un autre parallèle, bien-aimé, que dans mon péché, je vois la grâce. Amen. Là, il y a beaucoup de péchés, la grâce surabonde. Pourquoi la grâce? C'est-à-dire la grâce, c'est cette puissance, cette capacité de sortir de ce péché-là. Et de marcher à nouveau avec Dieu. Amen. Donc quand tu es englouti par le péché, vois cette grâce. Au lieu de juste de s'enfoncer, je ne suis pas capable, je suis trop dedans, je vais m'enfoncer. Ou de s'enorgueillir, de dire que je ne sors pas de là. Je résiste. De toute façon, j'ai déjà fait. Non. Voyons la grâce de Dieu qui nous sort de cette boue. Amen. C'est pour ça que Dieu pouvait appeler quelqu'un comme Rahab, la prostituée, la lister dans la liste des héros de la foi. Je me dis toujours, elle n'est plus prostituée, elle est déjà clean. Mais pourquoi on l'appelle Rahab la prostituée? Alléluia. Parce que c'est le Dieu du parallèle. Pour montrer que moi, Dieu, j'ai agi là où elle ne pouvait pas agir. C'est pour rappeler au monde que cette personne était faible, je l'ai rendue forte. C'est pour ça qu'on va continuer à l'appeler peut-être la faible Maggie, pendant qu'elle est déjà maintenant forte. Amen. On va peut-être l'appeler Kensley dans la détresse, pendant qu'il est déjà dans la prospérité. Amen. Et parfois, on va l'appeler, je ne sais pas, Moussa le pécheur, pendant qu'il est déjà sous la grâce divine. Amen. Alors, c'est aussi pour inviter plusieurs qui vivent ces choses contraires à croire au Dieu qui voit tout, au Dieu du parallèle. Au Dieu qui a établi des parallélismes, des choses qui viennent renverser les états dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire, bien aimé, quand le ciel est ouvert sur nos vies et que la terre nous fait vivre des choses qui sont contraires au ciel, Dieu est encore capable d'agir et de faire, de transformer ce que tu vis sur la terre afin que cela corresponde à ce qui est dans le ciel. C'est pour ça que c'était important que Jésus, en apprenant à ses disciples à prier, leur dise, il faut demander que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que le Dieu qui établit ce parallélisme agisse encore. Parce que Jésus-Christ savait pertinemment bien que les enfants de Dieu, que les disciples vivaient des choses sur la terre contraires au ciel. Sinon, il n'aurait pas mentionné cette phrase. Je ne sais pas ce que tu vis de contraire. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui voit tout, qui voit au-delà de ce que tu vis. Amen. Parce que Dieu te voit sur la terre en train de vivre peut-être la détresse, mais Dieu dans le ciel, il voit la prospérité. J'ai appelé cette personne à la prospérité. Mais toi, tu vois tout ce que tu vis sur la terre au lieu de regarder au-dessus, de voir qu'est-ce que Dieu est en train de voir en face de lui. Amen. Qu'est-ce que Dieu voit devant son écran? Est-ce qu'il voit ta faiblesse ou il voit ta force? Est-ce qu'il voit ta douleur ou il voit ta joie? Est-ce qu'il voit ta détresse ou il voit ta prospérité? Est-ce qu'il voit ton péché ou il est en train de voir ta grâce? Alléluia. Vous savez, j'aime ça. Quand Dieu est en train de reprendre quelqu'un, alléluia, Dieu est bon. Vous savez, quand Dieu parle et qu'il te dit « sors du péché », vous savez qu'il est déjà en train de te voir, en train de marcher hors de ce péché, de la sainteté. Sinon, il ne t'aurait pas parlé. Sinon, il t'aurait juste frappé, tué, c'est fini. Mais si Dieu prend encore là, c'est pour ça qu'il y a une chose que j'aime pas, c'est le silence de Dieu. Il n'y a rien qui est le plus dangereux. Quand Dieu ne parle plus, ça veut dire que c'est déjà acté, c'est fini. Vous allez vivre ce que vous allez vivre. Ce papa là, je préfère qu'il dise, même s'il va parler durement, qu'il dise quand même. C'est comme une femme aussi. Les femmes, quand elles parlent, c'est très dangereux. Parce que les femmes sont là pour parler. Quand la femme, elle parle plus, frère Kevin, tu m'entends? Très dangereux. Mais, tu te dis, elle est silencieuse comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais, fais-lui parler. Amen. Parce que c'est comme ça. Et parce qu'elle dit ce qu'elle ressent. Au moins, tu sauras. Et si elle dit plus, peut-être qu'elle ne ressent plus quelque chose de bon. Pose-toi la question, c'est à cause de moi, c'est à cause de quoi? Amen. Dieu est là, il parle. Parce que Dieu crée en parlant. Dieu agit avant d'agir, il parle. Alors quand il parle pas, tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons des choses sur la terre ici, contraires. Mais toi, tu ne dis rien. C'est ça qu'au temps de Samuel, c'était des moments critiques où il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de révélation, il n'y avait plus de parole, il n'y avait plus de prophétie. C'était critique en ce temps-là où le prophète, le sacrificateur Élie était là, en train de juger Israël. Ses enfants faisaient du n'importe quoi, ils étaient des sacrificateurs, ils étaient en train de coucher avec les enfants d'Israël qui venaient faire des sacrifices. Ils faisaient toutes sortes d'abominations en train de prendre l'offrande qui était consacrée à Dieu. Il y avait toutes sortes d'abomination qui se faisait. Et lui, leur père, Élie, ne les condamnait même pas. Il les châtiait même pas. Et Dieu était contre ces choses. C'est ce qui empêchait Dieu de parler. Dieu ne parlait plus. Jusqu'au temps où Samuel est dit, où Dieu a appelé Samuel pour établir quelque chose de nouveau. La Bible déclare que les visions étaient rares en ce moment. Jusqu'à un moment où Dieu décide d'amener son parallèle. Où le Dieu qui voit tout décide d'amener ce que lui il voit dans les cieux pour que cela soit fait sur la terre. Amen. Alors Dieu voit cela. Mais il ajoute dans le verset 10, dans le verset 11 plutôt, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Amen. Dieu voit aussi qu'il y a des gens qui sont comme liés, comme des brebis destinées à la boucherie. Le diable est mauvais, bien-aimé. Le diable est mauvais. Si tu voyais l'image que tu as dans le monde spirituel, tu regretterais. Je parlais à un jeune homme, c'était sa fête cette semaine. Je disais que Dieu, je prie que l'Éternel t'ouvre les yeux, la lumière sur ton chemin, sur ta destinée, et qu'il puisse te sortir de toutes les prisons dans lesquelles tu es. Ah, il m'a dit, amen, il est temps que je sorte de ces prisons. Pourquoi? Parce que cette personne, vous savez comment, comment il est représenté dans le monde spirituel? Un jeune homme de 27 ans. Mais dans le monde spirituel, il est comme une chèvre qu'on a lié les pattes et qu'on est en train de mettre dans un coffre. Amen. Et à qui on a changé les yeux. Il n'a plus des yeux d'homme, mais des yeux de chair. On le voit, c'est comme ça qu'il est représenté dans le monde spirituel. Les condamnations et toutes les choses que l'ennemi fait dans sa vie. Et maintenant, dans sa vie, il est là, à 27 ans. Pas autonome, il ne sait pas garder un boulot. L'école, ça ne marche pas. Les relations, n'en parlons pas. Il est juste là. Il a des rêves énormes. Une créativité, t'as pas idée. Les dons et les talents sont là. Mais il ne sait rien faire avec. Il a des projets, mais il se sent juste bloqué, juste étouffé. Terriblement, il va à l'hôpital, on le diagnostique avec une pression, une haute pression de, je ne sais pas, 160 sur je ne sais pas combien. 70. C'est à ton âge, une grosse hypertension comme ça. Mais c'est ça. L'ennemi est en train de le préparer à la boucherie, à l'abattoir. Mais Dieu dit, sauve, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Amen. C'est peut-être ton cas, c'est peut-être mon cas, mais c'est peut-être le cas de quelqu'un d'autre. Mais Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un. C'est-à-dire moi qui peux voir, le Dieu qui voit cela. Je vois la misère qui est dans la vie de quelqu'un. Je vois la souffrance de quelqu'un. Comme il a dit à Moïse, j'ai vu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu leurs gémissements. J'ai entendu ce que leur font souffrir, Pharaon. Et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va! Et je t'enverrai en Égypte. Dieu est en train de te dire, devant, est-ce que tu peux voir la souffrance de quelqu'un? Est-ce que tu peux voir la douleur de quelqu'un? Est-ce que tu peux avoir un regard autre que le regard que tu as sur tes besoins et tes problèmes? Est-ce que tu peux voir ce que quelqu'un vit? Il y a des gens qui souffrent, je vous dis, dans ce monde. Est-ce que tu peux voir la douleur de cette femme qui est battue jour et nuit dans son mariage et qui ne sait pas le dire à qui que ce soit? Est-ce que tu peux voir la douleur de cet enfant qui est abusé par son propre père et sa mère est complice et personne ne dit quoi que ce soit? Est-ce que tu peux voir la douleur de ces gens, de ces réfugiés-là qui sont en train de mourir dans les noyades par-ci par-là? Est-ce que tu peux voir la douleur de toutes ces femmes qui sont violées et autres? Toutes ces guerres. Est-ce que tu peux voir la douleur? N'allons pas loin, juste à côté de toi. Ton collègue de travail. Amen. Il y a des gens qui sont bien-aimés comme destinés à la mort. Qui sont traînés vers la mort. Qu'on veut égorger. Mais Dieu dit, je vois ces gens et je veux les sauver. Mais je crois, je veux compter sur toi. Dieu voit. Amen. Et dans le verset 10, il dit, si tu dis, ah, nous ne savions pas. C'est-à-dire, si tu commences à jouer à l'ignorant, à la personne qui n'est pas en train de réaliser... Tu te trompes parce qu'il dit, celui qui pèse le cœur ne le voit-il pas? Dieu est en train de le voir, même si toi tu l'ignores. Même si toi tu fais semblant. Il dit, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Dieu est en train de montrer qu'il veille sur ton âme. Même quand toi tu ne vois pas tous les dangers, Dieu veille sur toi jour et nuit. La Bible déclare, il ne sommeille ni ne dort. Je me suis toujours demandé, mais Seigneur, quand est-ce que tu reprends tes forces? Parce que nous, il faut qu'on dorme pour recevoir les forces. Amen. Et moi, je suis le Tout-Puissant. Je n'ai pas besoin de recevoir une nouvelle force. Je suis celui qui donne la force. Je dois rester éveillé pour que vous puissiez dormir. Parce que le jour où Dieu dort, c'est fini. Tous tes ennemis te marchent dessus. Seigneur, ne dors pas, s'il te plaît. Sur ma vie, ne dors pas. Sur mon cas, sur ma situation, ne dors pas, Seigneur. Ne somnole même pas. Que personne même te ferme. Oh, Seigneur. Dieu là doit avoir les yeux grandement ouverts sur ma vie. Même s'il y a des choses croches, Seigneur, regarde, regarde, regarde. Mais ne ferme pas l'œil sur ma vie. Amen. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, quand je fais mes histoires à moi, ferme l'œil, ne dis rien. Non. Il y a des gens qui ont dit ça. Mais ça t'aide pas, ça te maudit. Tu préfères, c'est même mieux que Dieu soit en train de regarder, de voir, de surveiller toutes les choses, même qui sont croches, et dire, mon fils, ma fille. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette avait un crochet, c'est-à-dire que quand je suis en train de m'égarer vers la mauvaise voie, elle peut me prendre par le cou et me ramener. Amen. Parce que parfois, je ne connais pas le chemin. La Bible déclare qu'il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche à connaître ses voies. Nous ne connaissons pas la route par laquelle nous devons marcher. Mais c'est Dieu qui doit nous orienter. C'est Dieu qui guide nos pas. La Bible déclare sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu ne connais pas par où passe ta prospérité. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, connais-tu la tracée de l'aigle dans les airs? Est-ce que tu peux la voir? Connais-tu la tracée du navire sur l'océan? Comment peux-tu connaître l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie? Comment peux-tu savoir par où Dieu va te bénir? Comment Dieu va le faire? C'est un mystère. Égal à toi de dire que Dieu ne va pas le faire parce que tu ne sais pas comment ça va se faire. Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Amen. Je veille sur ton âme. Celui qui veille sur ton âme ne le sait-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Le Dieu qui voit tout va rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. À celui qui fait des choses croches, Dieu va amener un jugement. À celui qui est dans la droiture, Dieu va amener des récompenses. Mais Dieu voit tout. À celui qui est dans le péché, qui veut revenir à Dieu, Dieu va amener la grâce. À celui qui est faible et qui regarde à Dieu, Dieu va accorder la force. À celui qui est dans la détresse et qui crie au Dieu qui est le secours, qui ne manque pas dans la détresse, Dieu donnera la force, Dieu donnera la prospérité et la délivrance. Mais il dit sauve, délivre ceux qui sont amenés à l'abattoir, ceux qui sont amenés à la mort. Il est temps, bien-aimé, Dieu est en train de voir. La Bible déclare qu'il regarde sur la terre, il voit personne qui l'intercède, il voit personne qui plaide pour les autres. Et Dieu s'étonne de voir qu'il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui interfère. Vous voyez ce qui se passe dans la vie des gens, mais vous ne faites rien. Toi qui connais que ta sœur est en train de marcher dans l'impudicité, qu'est-ce que tu as fait? Dieu s'étonne, il le voit. Il sait que tu as vu aussi, mais tu fermes les yeux. Tu sais que les textos qu'elle a là ne sont pas corrects. Tu sais que le garçon avec qui elle est, c'est le mari d'autrui. Tu sais que le sexe qu'elle a, elle ne devrait pas l'avoir parce qu'elle n'est pas mariée. Tu sais qu'il est en train de tromper sa femme et tu dis rien. Dieu le voit, il te voit et il s'étonne que personne n'intercède. Il s'étonne que personne ne s'interfère. Il s'étonne. Oui, tu vas dire, mais même si je dis, il va repérer encore, mais dis quand même. Ça veut dire parler, c'est important. Vous savez, le but de parler, c'est pas forcément que les gens t'écoutent ou fassent ce qu'ils font. Papa, parfois les gens, on est tellement orgueilleux que je veux que ce que je te dis, même quand je vous prêche comme ça, je sais que d'autres rejettent ça. Mais le but, c'est même pas ça. Moi, je suis un messager. Mais c'est une semence qui peut germer en son temps. C'est-à-dire, quand tu parles à quelqu'un, même si cette personne est indifférente, il y aura un moment, bien-aimé, parce que cette parole a été logée dans le cœur de cette personne. Tu ne sais pas si dans 10 ans, cette personne se retrouvera dans une situation. Mais la seule parole que le Saint-Esprit va trouver, va fouiller dans sa vie, c'est cette semence-là que tu lui aurais dit 10 ans auparavant. Mais maintenant, imagine-toi que quelqu'un se retrouve, on l'amène à l'abattoir, pour être égorgé par l'ennemi. Il est dans la détresse. Il n'y a aucune parole que l'Éternel peut utiliser dans sa vie, parce que personne ne lui a jamais dit quoi que ce soit. Amen. Tu ne sais pas ce qu'une parole, ce qu'un avertissement, c'est qu'une intercession de ta part. Si tu ne peux pas parler, prie ne fût-ce que pour la personne. Plaide, pleure pour la personne. Ou condamne ces choses. Amen. Un qui vient avec son impudicité chez toi, il condamne ça. Et pas chez moi. Si tu veux continuer à faire tes impudicités, pas chez moi, pas dans ma maison. Pas dans ma maison. Ma maison ne sera pas une maison de souillure. Moi, si tu viens rester chez moi, je vais te dire, oui, tu es bienvenu, mais il y a des normes ici. Parce que c'est chez moi. Le ciel est ouvert ici. C'est sur mon ciel. J'ai le droit d'imposer des règles. Parfois, mon frère me dit, ça, la façon parfois, tu es avec ton fils, tu es dur. Je dis, c'est mon fils. Et c'est ma responsabilité. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Si toi, tu veux être papa pour le quoi, c'est ton affaire. Moi, il y a des choses que je dois faire respecter ici. C'est ma maison, je suis responsable. Le ciel, si quelqu'un va utiliser ma maison comme un hôtel de passage, non, ça ne marche pas. Moi, je veux prier dans cette maison et que j'ai des interférences. Non, 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 je viens ici, je ne prêche pas d'onction. Ma destinée, la mettre en péril pour ton plaisir de 5-10 minutes, oublie ça. Non. Même si on va s'empoigner là, on doit s'empoigner. Ou tu sors, ou tu respectes les choses. Amen. Tu veux n'importe comment. Oh, et bien qu'on soit amis, et puis que je te dise rien. Non. Attention à vos associations, bien-aimés. Parce que ce que tu tolères finit par t'arriver. C'est-à-dire que Dieu voit tout. La façon dont Dieu voit les choses, il dit, ok, toi tu marches avec elle. Tu sais qu'elle, elle est dans les ténèbres. Toi, tu profites d'être dans la lumière, mais tu ne lui dis pas jamais de la lumière. Et tu ne lui dis jamais, parce que la lumière a une particularité, c'est qu'elle expose les ténèbres. Et elle dérange les ténèbres. Comment elle qui est dans les ténèbres n'est jamais dérangée par la lumière qui est en toi? C'est quelque part, soit ta lumière n'est pas assez forte, ou tu vois si tu es vraiment dans les ténèbres. Non, il faut qu'on se dise la vérité. La lumière la plus petite a la puissance, la capacité de déranger les ténèbres les plus noires. Amen. La plus petite, tu as mis une petite bougie dans les ténèbres les plus noires, on va voir qu'il y a une lumière. Amen. Donc, ça veut dire, alors Dieu maintenant qui te voit et qui voit l'autre, se dit, ah, comment toi tu m'exposes sur les ténèbres de l'autre, comment toi tu es à l'aise dans les ténèbres de l'autre. Amen. C'est ça, c'est ainsi, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, quand il juge la personne, parce que Dieu visite, les jugements de Dieu se font souvent, et Dieu n'annonce pas ça parfois. Les boîtes de nuit, les bars et tout ça, parfois sont frappés par des jugements. Vous voyez un incendie, vous voyez quelque chose, ou whatever, c'est des jugements de Dieu parfois qui viennent. Parce que les anges de Dieu sont là. Les gens justifiés, ils sont là. Les anges huissiers, ils sont là. Ils traversent. Parfois, ils viennent, ils voient, ah, ici, là, le péché est arrivé à son comble. On frappe. Alors, quand maintenant, il va venir, que le temps de jugement est arrivé pour ton ami, ta copine, là. L'Éternel qui vient frapper maintenant, l'ange qui vient avec le jugement de Dieu. Et les anges là, les anges ne sont pas miséricordieux. Mais c'est Dieu qui l'est. Eux là, un commandement est un commandement. Dieu a dit, on doit venir juger, frapper. C'est quand ils sont venus sur Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas la blague. Dieu a dit. Abraham est insensible. Dieu a dit. Alors quand ils vont venir là, ils te voient comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le jugement qui s'exerce sur l'autre. Si toi tu es à côté, toujours à côté, ami, ami, qu'est-ce qui va se faire? Tu vas subir aussi les jugements. Par association. Et c'est ce qui est dangereux. Mais si tu t'étais dissocié, si tu avais exposé, c'est là que tu es épargné. Et tu pourras même épargner la personne. Que Dieu va dire non. À cause de cette parole, je vous épargne. Et c'est comme ça que parfois, il y a des choses qui affectent ta vie, qui ne t'étaient même pas destinées, mais qui t'affectent parce que tu acceptes de collaborer, de tolérer avec des choses qui ne sont pas correctes, qui sont à côté de toi. Tu ne protèges pas tes enfants, tu ne protèges pas ton foyer, tu ne protèges même pas tes finances. Et même il y a certains esprits, parce qu'il y a des esprits qui vont suivre cette personne, qui vont commencer même à attaquer ta vie. La pauvreté peut sauter sur toi, tu ne sais pas, à cause de cette association-là. Tu vas me dire, ah, mais comment Jésus marchait avec les prostituées, marchait avec ces trucs. Mais Jésus-Christ n'a toléré pas ces histoires-là. La prostituée disait clair, là, les prostituées savaient que cet homme était un saint homme. Et quand les prostituées venaient à côté de lui, ce n'était pas pour venir les séduire. Hein. C'était pour venir changer de vie. Et les prostituées qui rencontraient Jésus ne rentraient pas prostituées. Checkez la Bible. Même les escrocs qui venaient vers Jésus ne restaient pas escrocs. Zachée, escroc, rencontre Jésus, il devient le premier sponsor, bienfaiteur du coin. Non. Amen. Toi, les escrocs, t'es fréquent. Tu commences à devenir même toi-même escroc. Tolérer des choses. Ah, tu peux me faire cette combine. Ah. Il te fait passer une carte de crédit aussi. Ah, je dois faire ce voyage-là, fais-moi quelque chose. Non. Amen. Alors, c'est important. Il dit, le Seigneur dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelles sont nos œuvres? Parce que Dieu les voit. Dieu voit tout. Amen. Dieu voit tout. Alors, il est temps pour nous de nous lever. Quand on voit les gens qui sont destinés à la mort, je dis, Seigneur, nous allons nous lever pour intercéder. Nous allons nous lever pour parler. Car nous croyons au Dieu qui voit tout, au Dieu qui amène les parallèles. C'est-à-dire que quelque chose peut devenir contraire, peut être changé. Ce que nous voyons de croche sur la terre peut être changé par rapport à ce que Dieu voit dans le ciel. Entrant dans la vision de Dieu, la vision qu'il a dans le ciel. C'est comme ça qu'il nous voit. Parce que, bien aimé, en réalité, nous avons été créés dans le ciel et pas sur la terre. La terre, c'est notre lieu de mission. C'est là où nous sommes envoyés. C'est comme un ambassadeur, l'ambassadeur du Canada qui va au Congo et qui commence à marcher comme un Congolais. Amen. C'est une aberration. Mais toi, on t'en veut, on va vite. Le premier ministre va vite le rapatrier. Là. Toi, la reviens ici. Depuis quand tu es devenu congolais? Amen. Ça ne marche pas. Toi, tu es censé être Canadien là où je t'envoie. Et représenter les intérêts du Canada. Et rien d'autre. Alors, nous sommes du ciel. Nous devons entrer dans la vision de Dieu, comment Dieu nous voit dans le ciel et le manifester sur la terre, le représenter sur la terre. Amen. C'est à cela que nous serons appelés, bien-aimés. Donc, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Que dans la faiblesse que nous trouvons dans notre lieu de mission ici sur la terre, soit changée à la force dans laquelle Dieu nous voit dans le ciel. Que la détresse soit changée en prospérité. Que la mort soit changée en vie, en résurrection. Car le parallèle de la mort, c'est la résurrection. La mort est importante. Il est important de vivre ces choses. Parce que bien aimé, sans la mort, il n'y aurait pas de Seigneur des Seigneurs. Jésus est devenu Seigneur des Seigneurs. Pourquoi? Parce qu'il est passé par la mort. Toi, tu veux l'élévation, tu crois que ça va passer sans mort? Il faut qu'il y ait une mort dans tes finances, une mort dans ton corps, une mort dans tes relations, une mort. Quand tu vois les choses commencer à beaucoup mourir, pense à élévation. C'est difficile. Mes relations brisées, ou quelqu'un va me dire, ah, on vit parfois des choses. Parfois, c'est pas évident de consoler quelqu'un quand tu vis passer quelle vie. Quand quelqu'un va te dire, écoute, c'est la deuxième relation que je perds. J'entre dans une relation, on me plaque, on me laisse. Finalement, qu'est-ce qui va arriver de moi? J'ai 32 ans et ça ne pense pas. Et je lutte. Et je lui dis quoi?
Ça ira.
Une belle phrase, mais pas toujours évident. Amen. Mais quand on comprend que la pensée de Dieu, c'est d'amener les parallèles, que Dieu qui voit tout, Dieu, dans ta mort, dans la mort de toutes ces relations, est en train de voir une résurrection, une élévation. Ça dit qu'il y a une relation qui va t'élever. Amen. Alors, nous allons nous lever, bien aimé, dans cette pensée-là. Dans la pensée du Dieu qui voit tout. Le Dieu qui voit les choses telles qu'elles sont dans le ciel. Je ne sais pas ce que toi tu vois, ce que tu as vu. Mais aujourd'hui, que ta façon de voir change. Toi qui vois les gens mourir et que tu ne fais rien, qu'aujourd'hui tu puisses changer. Que tu prennes une résolution dans cette journée. Je veux appeler ma copine là et lui dire, écoute, ce que tu fais là n'est pas correct. J'aimerais t'annoncer que je ne suis pas d'accord avec cette façon. Qu'elle soit contente ou pas. Tu lui dis. Et dans ma maison, moi, je ne veux plus collaborer ou participer à tes affaires. Mais viens, il y a une lumière, tu peux changer, il y a une grâce pour toi. Ou tu vas regarder toi-même aussi ta propre vie, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus demeurer dans cette saleté. Parce que toi, tu me vois dans la sainteté. Tu me vois dans la grâce. Je dois sortir. Toi qui t'es vu dans la détresse, tu dois te dire, Seigneur, à partir de jour, moi je me vois dans la prospérité, pas dans cette détresse. Toi qui te vois dans la faiblesse, Seigneur, je ne peux plus être faible dans la prière, je ne peux plus être faible dans mes émotions. Seigneur, je me vois fort. Amen. Toi qui te vois dans la douleur, que tu dis, Seigneur, je ne me vois pas dans cette douleur, je me vois dans la joie du Seigneur. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Amen. Nous allons réclamer la délivrance du Seigneur. Ils sont égorgés. Ceux qu'on amène à la mort. Il y a des gens que Dieu va sortir de la captivité. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons réclamer la sortie, la délivrance. Le salut de toutes ces personnes. Alléluia. Merci Jésus.